le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonjour. Le dernier vestige de la décharge industrielle de Bonfol sera bel et bien démoli. L'Assemblée communale a refusé hier soir le projet de valorisation du site. Les citoyens ont largement rejeté le concept baptisé refuge. C'est l'objet des votations fédérales du 15 mai dont le sort paraît le plus incertain. La révision de la loi sur le cinéma suscite le débat. Partisans et opposants à la loi Netflix n'ont croisé le fer ce matin sur RFJ. En cyclisme, une étape qui pourrait profiter aux sprinteurs sur le Tour de Romandie. Les coureurs feront aujourd'hui une boucle avec des paris arrivés à Échallens. La deuxième étape compte 168 km. Météo, un ciel sans nuages cet après-midi. Le soleil va continuer à régner sans partage. Dans seconde partie de journée, les températures oscilleront entre 17 et 20 degrés maximum. Les citoyens de Bonfol ont dit non à un ultime projet pour revaloriser le site de l'ancienne décharge industrielle de Bonfol. L'idée de refuge portée par trois jurassiens a été nettement refusée hier soir en assemblée communale par 43 voix contre 17. Le vote avait été érigé en condition impérative par la chimie baloise pour qu'elle accorde un délai supplémentaire afin de donner une chance à un nouveau projet de s'affirmer. Il s'agissait de la dernière chance. La décision sonne ainsi la fin de toute tentative d'utiliser le dernier mur restant, selon le maire de Bonfol. Face au devoir de mémoire, Fernand Gasser a perçu d'autres préoccupations chez ses concitoyens.
Je pensais tourner la page de l'assainissement de la décharge, de supprimer cette trace qui reste du mur, et puis voilà. Se souvenir, et puis d'avoir un point d'attache touristique supplémentaire, ça n'a pas pesé lourd dans l'esprit des gens, quoi. C'est vrai que voilà, Botana n'avait pas fait non plus l'unanimité, mais là, c'est beaucoup plus clair, et puis voilà, on sait maintenant que c'est fini.
C'est désormais la fin des projets autour de ce mur?
Oui, je pense que ça a été clair cette fois. Je pense pas que la fondation ait encore la motivation de ramener autre chose. Et de toute façon, vu ce qui s'est dit hier soir, je pense bien que cette fois-ci, c'est fini pour définitivement.
Et la fondation Mémoire, Art et Forêt Bonfol a également pris acte de la décision de la population. Pour son co-président Yanis Cuno, il s'agit bel et bien de la dernière tentative de mener un projet.
Je crois que les choses ont été relativement claires hier soir. C'est une évidence, en tout cas, que la fondation, à ce jour, n'a plus aucun moyen d'atteindre ses buts qui se sont fixés autour de produire un travail de mémoire sur ce site. Donc peut-être qu'il y aura un projet sur ce lieu, mais il n'appartiendra plus à la fondation de le porter ni de le gérer. Et donc, dans ce sens-là, nous allons nous réfléchir à la dissolution de notre fondation. Donc, on se dirige dans cette direction et puis nous allons franchir les différentes étapes qui nous permettront d'arriver à cela. Maintenant qu'aucun projet ne sera réalisé sur ce site, c'est probablement le plan spécial cantonal qui réentrera en force. Et donc, il appartient à l'autorité de surveillance, à l'administration cantonale, de veiller à ce que les délais soient respectés par rapport à toute la remise en forêt du site et les différentes dernières étapes d'assainissement.
Un dossier réalisé par Nancy Chapuis et Jérémy Pignard. Le mur restant sera donc démoli par la chimie baloise et le site entièrement reboisé. Et sur le plan environnemental, l'ancienne décharge devra d'ailleurs subir des travaux d'assainissement complémentaires. Le service cantonal jurassien de l'environnement l'a annoncé ce matin. Après des analyses complémentaires, trois zones sableuses retiennent encore des eaux contaminées qui sont actuellement captées et traitées de manière continue. La chimie baloise doit encore échafauder un projet d'assainissement concret. Les travaux devraient démarrer en 2023. Il préfère la tronçonneuse à la girole. Jean-Pierre Froidevaux a reçu une commande pour la 5e édition de la fête de la tête de moine. Il doit réaliser une sculpture en bois à l'occasion de la manifestation prévue à Bellay à partir de demain. L'agriculteur de profession a pris seul l'art de façonner le bois à sa guise. Il explique comment il s'y prend pour sculpter les deux personnages qui décoreront la fête de la tête de moine, Jean-Pierre Froidevaux.
C'est des petits éléments, les bras sont pas très grands, les jambes aussi, et puis si on taille dans une pièce unique, dans un grand tronc comme ça, on a toujours le risque que le bois se fissure. Là, je préfère travailler sur des éléments collés, je fais des assemblages de bois que je colle ensemble. Ça me permet de mieux structurer ma création, et puis beaucoup moins de risques de grandes fissures qui viennent en travers d'un visage ou d'un membre ou je sais pas quoi, qui sont inesthétiques et puis qui fragilisent beaucoup la sculpture.
Vous y allez tout à l'œil ou vous avez un modèle?
Je fais un dessin sur papier, oui, où j'essaie de dessiner les quatre faces en gardant les perspectives, un peu les dimensions des enfants. J'ai mesuré mes petits-enfants pour voir la taille qu'ils faisaient et puis garder un peu les perspectives. Mais après, ça reste à l'œil.
Des propos recueillis par Nicolas Meusy pour apprécier la sculpture de Jean-Pierre Froidevaux. Rendez-vous à Bellay à partir de demain pour la 5e édition de la fête de la tête de moine. Une votation fédérale qui s'annonce serrée, la modification de la loi sur le cinéma serait acceptée de justesse par les citoyens le 15 mai, selon les derniers sondages. RFJ a organisé ce matin un débat qui opposait Mathieu Houmar, vice-président du Parti Socialiste Jurassien, à Anaëlle Lovy, présidente des Jeunes Libéraux Radicaux Jura. La Lex Netflix obligerait les plateformes à investir 4% dans le cinéma suisse, ainsi qu'un quota de 30% de films européens. Selon Mathieu Houmar, ces deux modifications vont dynamiser la culture cinématographique helvétique.
Je pense qu'il y a une crainte des jeunes, hein, de droite, de voir peut-être que des épisodes d'Heidi sur Netflix. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si c'était le cas, bah, plus personne ne regarderait Netflix. Là, l'idée, c'est plutôt d'investir dans le cinéma suisse pour qu'il devienne plus fort, pour qu'il reste là. On ne veut pas la mort du cinéma suisse. Hein. On a de très bonnes écoles en Suisse. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas vivre de la réalisation de films ou de séries. Et là, l'idée, c'est de réinjecter ces 18 millions dans cette économie-là, une économie globale. Parce que quand on tourne un film ou une série, on a tendance à loger les comédiens dans des hôtels, à consommer sur place dans des restaurants, faire fonctionner tout simplement l'économie locale sur le lieu de tournage. Et donc, pour toutes ces raisons, il est bon de soutenir le cinéma suisse.
Mais de son côté, Anaëlle Lovy du PLR ne croit pas que les modifications de la loi sur le cinéma vont profiter à l'économie locale.
Vous faites très bien de parler des retombées sur l'économie locale parce que dans la loi, la définition du film suisse, c'est qu'il doit être réalisé ou produit ou coproduit par une société suisse. Mais en aucun cas, il est écrit dans la loi l'obligation de tourner ses films en Suisse. Est considéré comme film suisse dès le moment que c'est une production suisse. Donc si ça se trouve, ils vont aller produire ça en France avec une coproduction française, ça sera considéré comme un film suisse. Ma vie de courgette, pour les Français, c'est français. Parce que c'est en coproduction avec la France. Donc si ça se trouve, ils iront tourner ça en France et l'économie locale n'en verra jamais la couleur, tout simplement parce qu'il n'y a pas cette obligation que les films soient tournés en Suisse. Donc les retombées pour l'économie locale, ça dépend. Ça dépend, on ne peut pas les assurer.
Mais vous retrouvez le débat en intégralité sur rfj.ch avec également nos précédents débats sur les autres votations du 15 mai. Le débat sur Frontex sera quant à lui à écouter demain dès 7h15 dans la matinale. Les premiers mariages de couples homosexuels pourront bien être célébrés le 1er juillet prochain en Suisse. C'était l'échéance annoncée par la conseillère fédérale Karine Keller-Souter le 26 septembre à l'issue de la votation qui avait vu 64,1% des citoyens valider le principe du mariage pour tous. Le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance d'application. L'OFEC, l'Office fédéral de l'état civil, envoie cette semaine les dernières directives techniques aux officiers locaux de l'état civil, en particulier celle qui permettra de transformer un partenariat enregistré en mariage. Confirmation avec Michel Montigny, adjoint scientifique à l'OFEC.
On est parfaitement dans le timing pour l'entrée en vigueur de la réforme sur le mariage pour tous. Nous avons adapté l'ordonnance sur l'état civil, l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil, l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée. Cette ordonnance a été adoptée par le Conseil fédéral le 30 mars.
Qu'est-ce qui change entre un mariage ordinaire et un mariage de personnes de même sexe?
En soi, la célébration d'un mariage entre deux personnes, qu'elles soient de même sexe ou de sexe opposé, n'est pas différente. Les directives ont surtout pour objet, finalement, la procédure de conversion du partenariat enregistré en mariage, qui, elle, est une nouvelle procédure.
Est-ce que vous pouvez garantir aujourd'hui que des mariages pourront être célébrés dès le 1er juillet?
Le 1er juillet, ça tombe un vendredi. Les offices de l'état civil sont normalement ouverts. Donc, en soi, il est possible de convertir un partenariat enregistré en mariage en un seul jour. Après, ça va dépendre, évidemment, de savoir si ces offices de l'état civil ont des plages horaires disponibles.
Michel Montigny était au téléphone de Serge Jubin. L'Office fédéral de l'état civil recommande de s'adresser suffisamment à l'avance à son office local pour mettre en route les démarches administratives et réserver une plage pour célébrer le mariage. À l'étranger, une guerre représente une absurdité au XXIe siècle. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lors de sa visite en Ukraine, à Borodianka, dans la banlieue de Kiev. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir commis des exactions dans cette région pendant leur occupation le mois passé. Le secrétaire général de l'ONU a appelé Moscou à accepter de coopérer avec l'enquête de la Cour pénale internationale sur de possibles crimes de guerre perpétrés en Ukraine. Antonio Guterres a prévu de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky cet après-midi.
Vous écoutez RFJ, il est 12h25. Sport.
Hockey sur glace, le HC Ajoie met la main sur un défenseur d'expérience. Il annonce aujourd'hui la signature de Kevin Fay pour les trois prochaines saisons. Il s'agit d'un retour à Porrentruy pour le joueur de 31 ans. Kevin Fay a cassé son contrat avec Bienne pour rejoindre le club jurassien de National League. Le défenseur a déjà porté le chandail Ajoulot à 188 reprises en Swiss League lors de plusieurs saisons entre 2009 et 2016. Par ailleurs, deux anciens Ajoulots retrouvent de l'embauche à Viège. Le défenseur Daniel Eigenmann a signé un contrat de 2 ans avec le club de Swiss League. L'attaquant Lou Bogdanov en a fait de même pour 1 année. Une attente de 3 ans va prendre fin pour la gymnastique jurassienne. Le championnat cantonal aux Agrès se tient ce week-end à Delémont. Il va réunir plus de 500 gymnastes dans les salles de la Blancherie. L'événement n'a plus eu lieu depuis 2019 en raison de la pandémie de coronavirus, même si plusieurs options ont été étudiées dans l'intervalle. La vice-présidente du comité d'organisation, Céline Pedrera.
La CJG nous a effectivement proposé bien simplement de le reporter en 2021 et force est de constater qu'en février 2021, tout le monde s'est rendu compte que ce ne serait pas possible sous cette forme-là de l'organiser début mai. Donc ce qui nous a été proposé, c'est effectivement une formule un peu réduite. On partait plutôt sur le mois d'août 2021, une formule réduite. Alors il y avait la possibilité de le faire sans public, de le faire uniquement avec les gymnastes jurassiens, de le faire éventuellement, on y a même réfléchi à aller filmer les gymnastes dans les sociétés parce que les gymnastes pouvaient s'entraîner, mais les grandes manifestations n'étaient pas envisageables. Et puis, pour avoir déjà vécu une première fois ce championnat en 2016, ce même comité d'organisation ne pouvait pas, quelque part, se contenter d'une formule réduite. Donc, on a demandé à la CJG s'il était envisageable, effectivement, de le repousser en 2022, sachant aussi également que tous nos sponsors de 2020 nous soutenaient et restaient avec nous partenaires dans cette aventure. Et
le championnat jurassien aux Agrès démarre donc samedi à 8h15. Pour se terminer dimanche vers 14h30. Programme complet sur acjg.ch. En cyclisme, après les punchers, place aux sprinteurs sur le Tour de Romandie. La deuxième étape se dispute cet après-midi en boucle autour des Chalands. Les coureurs vont avaler 168 km en terre vaudoise. Une seule difficulté répertoriée sur le tracé avec une côte de 3e catégorie à mi-parcours. De quoi faire de cette étape une opportunité en or pour les spécialistes du dernier kilomètre. Le patron du Tour de Romandie, Richard Chasson, n'en est toutefois pas totalement convaincu.
Quand un sprinter voit ça, il se dit « Vous êtes bien gentils les gars, mais c'est pas tout plat, de loin pas. » Mais par contre, c'est des bosses qui peuvent passer. On l'a vu l'année passée à Colbrelli qui gagnait à Saint-Imier. On l'a vu à plusieurs reprises que les sprinters aujourd'hui grimpent assez bien. Donc là, ils doivent passer. Après, c'est le contrôle de la course. Est-ce qu'ils ont la confiance ou pas de leur équipe pour les emmener jusqu'au sprint? Des fois, il y a des équipes qui se découragent un peu parce qu'ils sont persuadés que le profil est trop dur. Néanmoins, ça devrait quand même être une étape ou de baroudeurs, mais de sprinters. Moi, je mets assez quand même l'idée que les sprinters qui vont vers la montagne après se concentrent sur cette étape des Chalands pour aller chercher un sprint.
Le départ de la deuxième étape du Tour de Romandie sera donné à 13h15. L'arrivée est prévue aux environs de 17h20.